VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 décembre 2017 en direct de Washington. Idrissa Seroudia et Arnold Butson, nous commençons par les titres.
Un humanitaire centrafricain tué dans le nord de la RCA, en proie à une nouvelle spirale de violence dans le centre également.
Au Togo, le gouvernement a assuré hier que le dialogue politique s'ouvrira bientôt.
L'Afrique, prochain point chaud de l'extrémisme islamiste, avertit un parlementaire américain.
La Maison-Blanche dément s'être retirée du processus de paix au Moyen-Orient après l'annonce du président Trump sur Jérusalem.
Pour leur part, les Palestiniens ont appelé à une journée de rage ce vendredi.
Et des centaines de policiers israéliens ont été déployés en renfort avant la prière du vendredi à Jérusalem. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Nouvelle spirale de violence en République centrafricaine. Au moins 50 personnes ont été tuées dans le centre du pays, alors que l'on compte plus de 15 000 nouveaux déplacés dans le nord-ouest. De Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Dans le centre du pays, jusqu'à hier soir, la tension était vive. Les tirs à l'arme automatique ont retenti durant plusieurs heures à Ipi et ont plongé les habitants dans une profonde psychose. Les rumeurs d'une attaque d'ex-silica contre le site des déplacés de l'église catholique ont provoqué une panique généralisée. Selon des sources locales, plusieurs dizaines de corps jonchent encore le sol et les hommes armés s'opposent au ramassage. Il y aurait au moins 50 morts, voire plus. Dans le nord-ouest de la République centrafricaine, par contre, plus de 15 000 personnes craignant des affrontements entre groupes armés, se sont réfugiés à Paoua Centre, une ville frontalière avec le Tchad. La tension dans cette partie du pays est née à la suite de l'assassinat fin novembre dernier de Raymond Belanga, un chef rebelle de Révolution Justice. Timoléon Baïkwa, député de la région, appelle à l'aide.
Ceci est urgent. Aux alentours de Paoua, il y a un drame qui se constitue et il faut absolument une action urgente du gouvernement et des forces des Nations Unies.
Dans un communiqué publié mercredi 6 décembre, le département d'État américain a condamné ce regain de violence. Il a appelé les groupes armés à déposer leurs armes et à s'engager sans condition préalable et de bonne foi avec le gouvernement de la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Ajoutons qu'un travail humanitaire centrafricain a été tué par des hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord de la Centrafrique à Kaga-Bandoro. Selon des membres de sa famille, des hommes armés ont ouvert le feu sur la victime à son domicile. Il est décédé peu après à l'hôpital, toujours selon sa famille. Kaga-Bandoro est situé dans le nord du pays, dans une région sous contrôle de deux groupes armés, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et le Mouvement patriotique pour la Centrafrique, qui ont refusé l'installation du préfet nommé par le pouvoir de Bangui et empêché la célébration de la fête nationale le 1er décembre dernier.
Quelques 2000 réfugiés burundais vivant dans un camp de transit dans l'est de la République démocratique du Congo se sont opposés à un processus d'enregistrement biométrique en raison de leurs croyances religieuses. Des détails avec Eddie Isango.
2167 réfugiés ont opposé une résistance à se faire identifier à Kamanyola, selon Augustin Boulimuntu, responsable de la Commission nationale des réfugiés à Bukavu. Il a expliqué que l'enregistrement biométrique s'est fait au moyen de l'empreinte digitale et de l'iris de l'œil. Mais les porte-parole de ces réfugiés, Dionyse Nyandui, assurent que c'est interdit par leur foi. La majorité d'entre eux sont des adeptes de la prophétesse Zébia qui assure avoir eu des visions de la Vierge dans le nord du Burundi. Ils se sont réfugiés à Kamanyola en 2015 avec leur prophétesse après que la police burundaise a tiré sur eux à Businde, dans le nord du Burundi. Selon la MONUSCO, à la mi-septembre, au moins 36 réfugiés burundais ont été tués par l'armée congolaise alors qu'ils manifestaient à Kamanyola. En 2013, près de 200 adeptes de cette secte religieuse ont été condamnés par la justice burundaise à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour désobéissance civile.
Togo, y aura-t-il ou non dialogue politique pour sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis 4 mois? Aucun analyste ne se prononce clairement sur la question. Côté gouvernement, on assure que ces pourparlers pourront s'ouvrir bientôt. C'est ce qu'on peut retenir d'une conférence de presse tenue hier à Lomé. Le point avec notre correspondant Kai Lawson.
Ils étaient 4 ministres à se présenter ce jeudi devant la presse au nom du gouvernement. Leur principal message, le gouvernement togolais continue de prendre des mesures d'apaisement pour baliser la voie au dialogue avec l'opposition. Gilbert Barara, ministre de la fonction publique.
Toutes les conditions sont réunies pour aller au dialogue. Le souci que nous devons tous avoir, c'est de contribuer à créer les conditions de confiance et de décrispation du climat sociopolitique.
Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on peut citer la remise en liberté de certains détenus politiques, l'allègement du dispositif de sécurité déployé à Sokodé, Bafilo et Amango, et des réflexions en faveur des imams de Sokodé et de Bafilo. Notons que comme préalable au dialogue, l'opposition exige la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. La semaine dernière, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, a menacé que la coalition des 14 partis pourrait suspendre les discussions de pré-dialogue si les forces de l'ordre continuaient des exactions sur leurs militants et sympathisants. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Nigeria a nommé un nouveau commandant pour diriger la lutte contre Boko Haram après une recrudescence d'attaques meurtrières dans le nord-est du pays. Le point avec Solange Diamoulissa.
Sani Ousmane, le porte-parole de l'armée, a annoncé que le major général Roger Ibn Nicolas, chef de la logistique, prendra la tête de l'opération La Fille Adolée contre les islamistes dans le nord-est du pays. Il remplace le major général Ibrahim Atahirou, que régagne le quartier général de l'armée à Abuja. Aucune raison n'a été donnée à ce remaniement. Ibrahim Atahirou dirigeait les opérations depuis 7 mois. Le président nigérien Muhammadu Buhari avait affirmé en décembre 2015 que Boko Haram était techniquement battu. Fin novembre, il a déclaré que les attaques et attentats suicides qui se sont accélérés cette année ne sont que les derniers coups de pied d'un cheval mourant. Mais ces dernières semaines ont vu une recrudescence des attaques de Boko Haram. Le week-end dernier, 2 kamikazes ont tué au moins 13 personnes et blessé plus de 50 autres à Biou, dans l'état du Borno, épicentre du conflit qui a fait au moins 20 000 morts et quelques 2,6 millions de déplacés depuis 2009.
Le président de la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants des États-Unis estime que l'Afrique sera le prochain point chaud de l'extrémisme islamiste, et ce alors que s'accroissent les craintes d'une migration du groupe État islamique et de ses efforts de recrutement après que son soi-disant califat au Moyen-Orient a été détruit par les forces de la coalition menée par les États-Unis en Irak et en Syrie. Selon le député Michael Thomas McCall, les djihadistes veulent des territoires non gouvernés ainsi que des sanctuaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche a démenti hier que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le prochain transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv signifient que l'administration Trump se retire du processus de paix au Moyen-Orient. Jean-Roger Bion.
En fait, dans sa déclaration, le président a dit que les États-Unis sont plus que jamais engagés en faveur du processus de paix et veulent continuer à faire avancer ces conversations et discussions pour parvenir à un accord de paix, a souligné hier la porte-parole Sarah Huckabee Sanders. Aucun autre pays n'a encore emboîté le pas au président Donald Trump, ce que la Maison-Blanche a reconnu. En réaction aux décisions de M. Trump sur Jérusalem, les factions palestiniennes ont déclaré que ce vendredi sera une journée de rage, tandis que le groupe islamiste Hamas a appelé à un soulèvement contre Israël. L'armée israélienne a annoncé hier qu'un de ses aéronefs et un blindé ont ciblé 2 postes de militants dans la bande de Gaza après le lancement de 3 roquettes sur Israël. Pour leur part, des protestataires palestiniens jetant des pierres ont eu des accrochages avec les forces israéliennes et ont riposté avec des balles en caoutchouc au réel à Gaza et en Cisjordanie.
Et Israël a déployé des centaines de policiers supplémentaires à Jérusalem aujourd'hui, jour de grande prière sur l'esplanade des mosquées, après les appels des Palestiniens à protester contre la décision du président Donald Trump, et ce selon la police que cite l'AFP.
Le député républicain de l'Arizona, Trent Franks, a annoncé hier sa démission après que la commission de l'éthique de la Chambre des représentants a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel portées contre lui. Quelques heures auparavant, le sénateur démocrate Al Franken, accusé de comportements déplacés envers des femmes, avait de son côté annoncé sa démission. Et toujours ici aux États-Unis, les incendies se propagent dans la région de Los Angeles, en Californie, où des ordres d'évacuation se multiplient. Abdourahmane Dia.
Les vents les plus puissants ont atteint 136 km/h, attisant les incendies qui menacent la grande métropole de Los Angeles. Le foyer le plus destructeur, le Toma Fire, a détruit près de 39 000 hectares et n'est contenu qu'à 5% selon le dernier bilan communiqué hier par le porte-parole des pompiers. 362 véhicules, 12 hélicoptères et 2500 pompiers sont mobilisés. Au moins une personne est morte et 150 bâtiments détruits. 12 000 maisons sont menacées et plusieurs célébrités de Hollywood ont dû abandonner leurs maisons, à l'instar de milliers de personnes répondant aux ordres d'évacuation lancés par les autorités. Selon la chaîne NBC, le Morata Estate, une propriété à 30 millions de dollars appartenant au magnat Rupert Murdoch et contenant un vignoble, a pris feu. Le chanteur Lionel Richie a annulé un concert à Las Vegas pour pouvoir aider son ex-femme Brenda Harvey Richie à évacuer.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Ghana, le ministère des Terres veut lutter contre l'exploration illégale des mines. Inscrit dans son projet quinquennal, le gouvernement devra dépenser 100 millions de dollars pour récupérer les terres endommagées par ses activités de mineurs illégaux. Au Cameroun, le ministère du Développement urbain et de l'Habitat va se doter d'une application numérique pour recevoir les demandes, traiter et délivrer les permis de bâtir en ligne. Yaoundé a injecté 300 millions de francs CFA dans ce projet. Dès janvier 2018, l'application sera prête et opérationnelle dans la ville de Douala. Cette innovation permettra de réduire les délais de délivrance de ce document administratif exigé à toute personne qui veut bâtir une maison. Un géoportail pour la surveillance spatiale des terres en Côte d'Ivoire. C'est un outil important pour le suivi de la dynamique en matière d'occupation des terres et de changement d'usage des sols. Des chercheurs, des ONG, des organismes publics et privés œuvrant dans l'environnement recevront des images à haute résolution sur l'évolution du couvert forestier national. Au Mozambique, les agents de l'administration publique vont perdre l'année prochaine certains droits et privilèges comme le logement, la location de bâtiments, le carburant, les primes de communication et d'autres avantages. D'après la loi de finances 2018, l'État pourra économiser plus de 155 millions de dollars.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cinquième ballon d'or pour Cristiano Ronaldo.
Favori à sa propre succession, Cristiano Ronaldo a remporté son cinquième ballon d'or après ceux de 2008, 2013, 2014 et 2016. À 32 ans, l'attaquant portugais a pu compter sur un parcours exceptionnel en club et en sélection. Ronaldo a accumulé les records personnels en Ligue des Champions, en championnat comme en sélection. Un parmi d'autres, il est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions. On rappelle que Messi et Neymar complètent ce podium du Ballon d'Or.
On jouait aussi dans la Ligue Europa hier soir.
Assuré de terminer à la première place du groupe D, le Milan AC a concédé sa première défaite de la saison en Ligue Europa à Rijeka, 2-0, déjà éliminé ce club. En déplacement à Vienne pour y défier l'Austria, l'AEK Athènes s'est contenté d'un match nul 0-0, suffisant pour la qualification. Villarreal n'avait rien à craindre avant la réception du Maccabi Tel Aviv et c'est une défaite pour les Espagnols, ce qui ne remet pas en cause leur première place du groupe. Arsenal s'est amusé hier soir, une victoire 6-0 contre le Batey Borisov. Par ailleurs, Bilbao a assuré sa qualification chez les Ukrainiens du Zorya Lugansk, 2-0.
Retour des clubs mauritaniens dans les compétitions continentales.
Et oui, Idrissa, après 3 ans d'absence, les clubs mauritaniens vont rejouer cette saison dans les compétitions africaines, interclubs, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. La Confédération africaine de football confirme que la SAC Concorde, champion en titre, jouera le tour préliminaire de la Ligue des Champions, tandis que le FC Nouadhibou représentera le pays en Coupe de la Confédération.
Coupe CECAFA au Kenya.
La Tanzanie battue par Zanzibar 2-1. Le Burundi, facile vainqueur de l'Éthiopie 4-1, et puis le match nul 0-0 entre le Rwanda et la Libye. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Los Angeles Lakers bat Philadelphia Sixers 107-104. Victoire aussi des Washington Wizards sur Phoenix Sun, 109-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Amnesty International tire la sonnette d'alarme au Burkina Faso. L'ONG, qui vient de rendre public son dernier rapport sur ce pays, dénonce des exactions commises par les groupes d'autodéfense Kogluego, des tortures perpétrées par la police et la difficile condition féminine. Morgan Guerrier a joint Steve Coben, directeur régional adjoint à Amnesty International. Il nous parle tout d'abord des activités des Kogluego.
Dans les zones où l'État n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de la population. C'est le groupe d'autodéfense qui essaie de protéger la population, mais en fait aussi qui commettent les abus des droits humains. Nous avons documenté plusieurs cas de personnes qui ont été tuées par ces groupes, des personnes qui ont été torturées, des biens qui ont été détruits. Donc des groupes qui agissent hors de la loi dans un contexte d'impunité. Donc il y a eux des tentatives d'avoir des poursuites judiciaires contre eux, mais on a trouvé que c'est très très difficile de les poursuivre en justice.
Est-ce qu'ils sont soutenus par les autorités?
Pas forcément, parce qu'ils sont soutenus par les forces de l'ordre. Parfois, on a trouvé qu'il y a les actes d'intimidation contre les juges et les forces de l'ordre, et l'intimidation contre la population, qu'il y a des marches pour essayer d'empêcher que la justice soit faite.
Alors, Amnesty International fait également état d'exactions commises par les forces de police. De quoi s'agit-il?
En 2015 et 2016, il y a eu des manifestants qui ont été tués par les forces de l'ordre pendant les coups d'État, pendant des manifestations aussi contre l'ancien président Blaise Compaoré. Donc c'est les violations des droits de l'homme par les anciennes autorités. Et maintenant, on attend qu'il y ait des enquêtes, des poursuites criminelles contre eux. Mais il y a aussi des violations commises par la police dans les lieux de détention. Nous avons documenté plus de 40 cas de torture. Il n'y a pas d'enquête contre les policiers.
Est-ce qu'il s'agit d'exactions à caractère politique?
C'est plutôt les cas des criminels présumés dans leur période de garde à vue. Ils n'ont pas accès à leur avocat et les polices peuvent utiliser la torture pour essayer d'avoir les aveux.
Enfin, vous tirez la sonnette d'alarme sur les femmes et la façon dont elles sont traitées.
Le Burkina Faso a un des taux de mariage précoce le plus élevé du monde et aussi le taux de mortalité maternelle le plus élevé du monde. Il y a plus de 50% des femmes qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans. On avoue les engagements sérieux par le gouvernement burkinabé de combattre cette situation. En 2016, ils avaient promis d'augmenter l'âge de mariage pour les filles à 18 ans. Mais jusque-là, cette promesse n'a pas été tenue.
C'était Steve Coben, directeur régional adjoint à Amnesty International.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Mali, arrivé hier soir à Bamako, de 152 Maliens rapatriés de Libye, il s'agit pour la plupart de jeunes. Certains étaient en prison, d'autres tentaient d'aller vers l'Europe. Ils se réjouissent tous de leur retour au pays vu les horribles conditions qu'ils ont eux aussi connues en Libye. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
C'est sous un vent frais que les 152 Maliens rapatriés, tous vêtus de survêtements, ont été accueillis par les autorités maliennes à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako Senou. Certains étaient contents, d'autres avaient le visage crispé. Dans ce lot, il n'y avait que deux femmes.
Dès que j'étais à Zabrata, après les tabassiers, on a un peu duré là-bas. La police libyenne nous a attrapés. Ils ont attrapé beaucoup de gens. Mais nous, on a réussi à fuir. Donc on est parti à Tripoli. On nous a lancé là-bas. Bon, ça n'a pas marché. On s'est retourné encore. Après maintenant, on est parti dans les foyers. Bon, ils nous ont attrapés là-bas encore pour nous mettre en prison. Donc on a beaucoup souffert là-bas vraiment. Parce que dans la prison, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a rien là-bas vraiment.
Les jeunes sont les plus nombreux parmi les revenants. La tranche d'âge varie de 20 à 25 ans. La particularité de ces lots est le fait qu'ils sont revenus avec l'ambassadeur du Mali à Tripoli, rappelé par le gouvernement pour consultation. Amadou Touré.
Tout ce que nous sommes en train d'évacuer actuellement sur Bamako, c'est des gens qui étaient détenus à Sabrata. Le gouvernement d'entente nationale nous collaborons étroitement avec ce gouvernement d'entente nationale. Quand le gouvernement d'entente nationale a transféré nos compatriotes, ils ont fait appel aux différentes ambassades présentes pour qu'elles se présentent afin d'identifier leurs compatriotes. Donc c'est ce que nous avons fait.
L'ambassadeur du Mali a donné sa version de la vente des Noirs en Libye. Amadou Touré appelle les Maliens au calme face à cette situation.
Sachez qu'en Libye, il y a deux sortes de gestion, on peut dire. La gestion qui peut relever un peu du gouvernement, mais nous avons également la gestion des groupes armés. Là, sincèrement, l'accès à ces centres de détention nous sont interdits. Et puis tout ce qu'on voit à la presse, les abages et puis tout, vraiment, ce sont des faits d'abord isolés, il faut le dire, même s'il faut le dénoncer avec la dernière vigueur. Parce que souvent, certains pensent que quand vous partez au bout de chaque carré, vous trouverez des marchés d'esclaves. Vraiment, ce n'est pas le cas. Il faut dire la vérité. Et surtout, c'est des faits de groupes incontrôlés.
Le gouvernement malien ne veut pas se limiter à ces 152 Maliens. D'autres rapatriements seront organisés, à laisser entendre Moussa Alou Kone, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'Extérieur.
Avant la fin de l'année, le mois de décembre, nous aurons au moins 3 à 4 rotations et que l'OIM pourra effectuer. Donc, l'occasion est bonne aujourd'hui dans cette dynamique-là pour faire venir tous nos compatriotes qui sont en détresse, que ce soit ceux qui sont en prison, que ce soit les familles qui sont là-bas. Et nous pensons, avec le partenaire, nous sommes en train d'explorer les voies et les moyens pour que ceux-ci aussi puissent arriver dans notre pays dans les meilleures conditions possibles.
Il a fallu le concours de l'OIM, du Conseil des Maliens de base en Libye et le gouvernement pour faciliter ces retours. Bakary Doumbia, chef du bureau OIM à Bamako.
Avant que les migrants n'arrivent dans leur pays d'origine, il y a un travail qui est fait par le gouvernement du Mali, c'est l'identification des Maliens, faire en sorte que tous ceux qui viennent, c'est effectivement des Maliens. Donc d'abord, on travaille dans les centres de détention pour libérer les Maliens et ils font l'enregistrement des Maliens et puis on facilite ensemble l'arrivée des Maliens.
Les 152 Maliens ont été pris en charge par le gouvernement à travers la protection civile et le développement social. Cela avant qu'ils ne retrouvent leur famille ou village. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, la 12e promotion des volontaires nationaux a prêté serment à Lomé. Ces 600 nouvelles recrues portent à 15 000 le nombre de volontaires déployés sur le terrain depuis 2011. Ces jeunes viennent en appui aux communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement ou encore de l'inclusion financière. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
En 6 ans d'exécution, le programme de volontariat national est devenu pour des jeunes Togolais, pour la plupart primo-demandeurs d'emploi, une passerelle pour acquérir une expérience professionnelle tant exigée lors des recrutements. Munie d'une licence en sociologie, option pratique sociale, développement et santé, Clarissa Adjovi-Adé est de la 12e promotion des volontaires.
Je dirais que c'est un pas sur le chômage, mais ça aussi, ça vaut la peine quand même. Parce qu'en attendant, avoir des expériences lorsque nous serons dans les structures d'accueil, fera de nos mieux pour le développement du pays. Nous, les Bretons, nous avons une mission de rendre service dans le but du développement et de l'épanouissement.
Kokou Dorosou, enseignant volontaire, estime que ce programme de volontariat est un pont entre l'université et le marché de l'emploi.
Le volontariat, c'est un trait d'union entre le travail et la compétence. Donc, le volontariat, c'est une opportunité pour la jeunesse de faire valoir leur potentialité, leur savoir-faire. En partie, le volontariat réduit le taux de chômage. Ça donne d'expérience. Et maintenant, quand vous avez l'expérience et la compétence professionnelle, vous pouvez maintenant vous présenter sur le marché de l'emploi et vous serez sélectionné.
Engagé dans le volontariat en 2013, grâce à Tignon de Souza, témoigne avoir échappé au chômage. Elle dirige aujourd'hui le foyer des jeunes filles à Agometomegbe, à 100 de kilomètres au nord-ouest de Lomé.
J'ai intégré le programme depuis 2013. J'étais bien au chômage. J'ai eu mon diplôme en 2006 et c'est en 2013 j'ai commencé le volontariat. Donc, en rentrant dans le volontariat, je me suis vue capable d'être utile pour le développement de la nation. Et aussi, j'ai renforcé mes capacités dans le domaine de l'animation, dans le domaine du développement communautaire. Et puis, j'ai acquis d'autres compétences dans la gestion des ressources humaines en matière de planification et de gestion de budget.
Les jeunes Togolais engagés dans le volontariat viennent en appui aux organisations non gouvernementales qui travaille directement avec les communautés à la base. Ruben Bosenjou de l'ONG Assol Togo accueille dans sa structure 3 volontaires. Pour lui, Ce programme est une forme déguisée de subvention de l'État aux organisations de la société civile.
L'agence de volontariat, c'est un appui parce que dans d'autres pays, les organisations de la société civile bénéficient d'une subvention. Et ici, cette subvention se décline par l'envoi des volontaires.
Mensuellement, les volontaires reçoivent de l'État togolais une indemnité de 60 000 francs CFA, soit environ 100 dollars. C'est un investissement qui contribue au développement, affirme la ministre du Développement à la base, Victoire Dogbet.
Les volontaires, quand ils s'engagent, ils contribuent à apporter des réponses à des besoins spécifiques de société, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'inclusion financière, de l'éducation de la jeune fille, de la protection de l'environnement, de l'agriculture ou du développement local participatif. Les jeunes volontaires s'engagent sur des questions de développement.
Il est à noter que le programme de volontariat togolais dispose aussi d'un volet qui prend en compte les jeunes non scolarisés ou déscolarisés très tôt. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
On continue d'enregistrer des réactions après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En Afrique, le conflit israélo-palestinien a toujours été un sujet qui préoccupe l'opinion publique et les gouvernements. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'ancien ambassadeur du Sénégal au Caire, le professeur Babacar Samb.
La cause palestinienne était devenue une cause de libération nationale au même titre que la cause de l'apartheid à l'époque. L'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest sont de majorité musulmane, donc Jérusalem a, sur le plan affectif, sur le plan religieux, vraiment un statut à défendre pour l'ensemble d'ailleurs des religions. C'est pas seulement pour les musulmans, mais aussi bien les chrétiens, les juifs.
On a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, mais est-ce que les dirigeants politiques réagissent de la même façon? On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de réactions du gouvernement en Afrique.
C'est vrai. À part deux pays, chacun va adopter une position médiane en attendant de voir l'évolution de la situation. Surtout du côté de la Ligue des États arabes qui a convoqué une réunion d'urgence sur la question. Mais les États ont leurs intérêts d'abord et ne veulent pas se mettre à dos par rapport à Israël, mais tout en exprimant peut-être leur solidarité avec donc les Palestiniens. Mais je crois que les mouvements associatifs, les mouvements même religieux, ne vont pas tarder à organiser, comme ça se fait déjà en Turquie et dans certains pays arabes, des manifestations hostiles donc à la position de Donald Trump sur la Palestine et surtout en ce qui concerne le statut de Jérusalem.
L'OCI, l'Organisation pour la Conférence islamique, se réunit en principe le 13 décembre en Turquie et beaucoup de pays africains sont membres de cette organisation. Vous pensez que ces pays pourront peser sur les décisions qui vont se prendre à Istanbul?
Oui, moi je pense que l'OCI a toujours affirmé et réaffirmé dans toutes les résolutions des sommets sur la solidarité avec la Palestine et toujours toutes les résolutions disent donc l'indépendance de la Palestine avec Jérusalem comme capitale.
Israël essaie de se rapprocher de beaucoup de pays africains. Israël a notamment une ambassade à Dakar et dans d'autres pays. Cette nouvelle donne va-t-elle changer quelque chose?
Ça va être, à mon avis, à l'encontre des intérêts d'Israël. Parce qu'Israël a une présence, c'est vrai, sur le plan sécurité, sur le plan agricole, sa coopération avec les autres pays africains. Mais ce sont les pays arabes qui ont véritablement des investissements importants en Afrique et l'influence politique comme un pays comme l'Égypte et le Maroc.
C'était le professeur Babacar Samb, joint à Dakar.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la PrEP qui signifie prophylaxie pré-exposition.
La PrEP est un moyen de prévention contre le VIH-Sida. Elle consiste en la prise de certains médicaments avant d'avoir des rapports sexuels ou d'être exposé à des risques de contamination.
Pour en parler, nous recevons le docteur Béa Volsteck, spécialiste du SIDA à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Elle nous expliquera les avantages et les limites de la PrEP.
Nous écouterons également le témoignage du docteur Camille Anoma, coordinateur de l'ONG Espace Confiance en Côte d'Ivoire, une ONG qui mène actuellement des études de faisabilité de la PrEP.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Arnold Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.